l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 17 août 2026. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. À 6h, passé des 15 minutes à Bukavu et dans les territoires décalés, c'est l'heure des informations interactives sur Radio Mandeléo. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, situation toujours tendue dans plusieurs villages des groupements des Iralo et Bouzi en chefferie de Bouavou, en territoire décalé où des combats d'une forte intensité sont signalés après l'offensive des troupes de l'AFC M23 sur les positions des FARDC. Plusieurs villages se sont vidés de leurs habitants hier dimanche suite aux violents combats de ces jours. Et toujours dans l'actualité, un peu plus loin des Calais, les groupements des Kanyola en territoire de Walungwa également été théâtre des combats entre les troupes de l'AFC M23 et les Wazalendo depuis le jeudi dernier. Même si un calme apparent règne dans les milieux depuis samedi dernier, la situation reste volatile alors que le bilan des combats n'est toujours pas connu. Et alors que le dialogue politique annoncé par les chefs de l'État n'est toujours pas convoqué, les opposants réunis au sein de la coalition C64 annoncent le début des manifestations le 15 septembre prochain, avec une marche pacifique en ligne de mire pour dire non au changement de la Constitution. Voilà tout pour les menus de l'actualité ce matin. Merci de nous faire confiance. Anissé Akonkwa assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
L'insécurité pour commencer cette édition du journal. La situation reste toujours tendue dans plusieurs villages des groupements des Iralo et Bouzi en chefferie de Bouavou, dans les hauts plateaux du territoire de Calais. En effet, après une offensive généralisée des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et leurs alliés, ayant conduit à la reprise de certaines zones comme Tchambombo, Lumbishi jusqu'aux environs des Changiers, ce sont les troupes de l'AFC M23 qui ont lancé depuis vendredi une contre-offensive sur l'ensemble des positions perdues. Des sources dans la zone indiquent des combats d'une forte intensité ont éclaté autour et dans les villages de Katalé, toujours dans les groupements des Iralo durant toute la journée de samedi 15 août 2026. Les combattants ont même fait recours à l'artillerie lourde et aux drones kamikazes, causant la mort d'au moins 15 personnes, dont des enfants et des dizaines de blessés qui sont pris en charge au centre de santé des références de Tshungutsi et d'autres au centre hospitalier de Kusisa. Cette contre-offensive a permis aux troupes de l'AFC M23 de reprendre le contrôle des villages comme Ngiramana, Runengeneng, Bukumba, Kalungu, Lumbishi et Tchambombo. Ce dimanche 16 août 2026, les affrontements se sont intensifiés sur l'axe Kafufula dans les villages de Bunji à environ 8 km de Tshungutsi, chef-lieu du groupement des Iralo, indique un défenseur des droits humains dans les hauts plateaux. Suite à cette intensification des combats, ce sont les villages comme Bunji, Nyalungusha, Akusisa, Batayo, Bushungulu et Kisha Tshungutsi qui se sont vidés de leurs habitants hier dimanche 16 août 2026. L'on rapporte l'incendie de plusieurs maisons, notamment celles atteintes par des obus, ainsi qu'un pillage systématique des biens dans cette partie où la tension ne fait que monter. Et après des jours de combats d'une forte intensité, soit jeudi 13 et vendredi 14 août 2026, entre les troupes de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo dans plusieurs villages du groupement des Kanyola en territoire de Walungu, un calme bien que précaire s'est installé depuis la soirée de samedi dernier, expédie Kialou.
Des sources locales indiquent que tout a commencé jeudi 13 août avec une attaque des combattants Wazalendo qui sont arrivés jusqu'au centre de Kanyola, provoquant une forte panique au sein de la population locale. Les combats intenses se sont alors poursuivis vendredi, provoquant des déplacements de plusieurs habitants. Des villages comme Kanyola Centre, Igali, Nabishaka, Mwilama, Chiola, Tindubi, Igalama, Rudundu et Mbuba sont restés vides, indique un leader local contacté. Le matin de samedi 15 août, la situation est restée volatile. Aucune circulation n'était visible dans le centre, tout comme dans différents villages ci-cités. Les troupes de la FSAM 23 sont restées visibles un peu partout, visiblement pour un ratissage. Alors que la plupart des habitants de Kanyola Centre s'étaient réfugiés les uns dans les écoles, chapelles catholiques, églises locales et familles d'accueil, c'est seulement le soir que leur retour a été possible avec le rétablissement de la quiétude. Le même samedi, une réunion aurait été tenue invitant les populations l'implantation de certains axes à se tenir hors des zones où les combats pourraient ressurgir, tout en insistant sur la nécessité de ne pas collaborer avec tous ceux qui peuvent être à la base de l'insécurité. Si le bilan réel reste à confirmer, des sources indiquent la découverte d'au moins 4 corps de personnes criblées de balles, dont 3 dans le village de Tchiola et 1 à Mbouba. La journée de dimanche est restée globalement calme dans la zone, avec la reprise normale de la circulation et les cultes ont été organisés dans différentes églises, indique un responsable local contacté. Entre-temps, les défenseurs des droits humains continuent de demander aux combattants de fournir un effort pour assurer la protection des civils non armés et ne pas les confondre porteurs d'armes de l'une ou de l'autre partie au conflit.
Merci Expedi Kialou. Et dans ce même chapitre, les organisations de la société civile, les mouvements citoyens et les structures réunies au sein de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle du territoire des Fizi annoncent 3 journées sans travail, soit les 17, les 18 et les 19 août 2026 sur l'ensemble de cette partie de la province du Sud Kivu et dans la ville de Baraka. Ceci pour exiger la libération sans condition des 6 défenseurs des droits humains dont les présidents urbains de la société civile Force Vive de Baraka et Tundamaï le vice-président de la FEC Ali Mukindula Alain Kabika.
Ces derniers ont été arrêtés jeudi 14 août dernier à Baraka par les commandements des forces armées de la RDC, basées dans la ville de Baraka dans un contexte marqué par des contestations contre de nouvelles taxes exigées par les gouvernements provinciaux à travers la direction provinciale des mobilisations et d'encadrement des recettes des PMR dans cette ville. Dans un communiqué rendu public, les organisations de la société civile, les mouvements citoyens et la FEC indiquent que ces journées villes mortes sont une façon d'exiger que les autorités relâchent ces défenseurs des droits humains. Et dans une correspondance rendue publique le week-end, le président de la société civile Force Vive de Fizi, Maître Jacques Alimassi, rappelle que l'activisme n'est pas un crime. Il rappelle que depuis que les forces vives contestent les paiements de ces nouvelles taxes et les bouclages imposés pour ce faire, des journalistes et défenseurs des droits humains subissent des pressions jusqu'à être assimilés aux ennemis de la République. Maître Jacques Alimassi en parle.
Quant à nous, la société Territoire des Fils, parce qu'on reconnaît que le président et le coordinateur de l'organisation locale ADA, membre à la société civile, la FEC est une composante dans la composante d'intérêt économique à la société civile du territoire de Fizi. Nous sommes obligés de dénoncer cet acte d'arrestation parce que nous avions estimé que c'est une arrestation arbitraire. C'est pourquoi nous avions attiré l'attention de partenaires de la communauté nationale tout comme internationale qui ont passé une arrestation qui viole les instruments juridiques protégeant les journalistes, protégeant les défenseurs des droits humains, parce qu'ils s'observent pour le moment dans les territoires de Fizi les actes d'intimidation, les actes d'arrestation, des tortures contre les journalistes, mais également contre les acteurs de la société civile, contre les DDH. Nous avons déjà enregistré plusieurs cas que nos collègues trouvent une libération totale, parce que la qualité reconnue aux journalistes, aux DDH, ce n'est pas un péché. Quand ils posent les actes, ce sont les actes qui rentrent dans leur profession.
Il dénonce également la persistance de la coupure des réseaux Internet dans la zone, une situation qui continue d'asphyxier la population, empêchant l'exercice de plusieurs activités et réduisant les pouvoirs d'achat des populations. Rappelons que juste à l'annonce de ces bouclages pour un recouvrement forcé des taxes, une altercation avait éclaté entre les services de l'ordre et les transporteurs, causant la mort d'au moins une personne, et les bureaux de la DPMR avaient été incendiés.
Et chapitre politique dans cette édition du journal, les députés nationaux et anciens gouverneurs du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, appellent à tirer les leçons des précédents dialogues en RDC, souvent suivis d'une paix éphémère, et plaident pour des objectifs clairs et une participation large des acteurs qui pèsent réellement sur la crise sécuritaire. L'élu dit dans un document intitulé « Ma réflexion pour une paix durable, une cohésion nationale renforcée et une restauration effective de l'autorité de l'État ». Selon Teongwa Bijekasi, la vocation du dialogue doit être définie en amont. Plus les objectifs sont clairs, plus il est aisé d'éviter des malentendus et mieux évaluer les résultats, insiste l'ancien gouverneur du Sud Kivu. Dans ce dialogue, le premier succès ne sera pas l'accord final, mais la participation des principaux acteurs qui influencent directement la crise sécuritaire ou les grands équilibres politiques, fait savoir Teongwa Bijekasi. Il souhaite également qu'on mette le peuple congolais souverain primaire au centre de ce dialogue. Pour lui, les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri veulent regagner leur toit, ce qu'il est librement cultivé leur champ à envoyer leurs enfants à l'école et accéder aux soins. Wabidje conclut que ce dialogue ne devra pas être jugé au nombre de concessions obtenues, mais à sa capacité à rapprocher durablement la RDC de la paix et du développement. Et dans ce même paquet, la coalition Article 64, C64, qui réunit notamment Martin Fayoulou de l'ECID, Jean-Marc Kaboun de l'ACH, Moïse Katumbi ensemble, Augustin Matatampogne de LGD et Delice Sanga de Envol, a annoncé la reprise de ses actions de mobilisation citoyenne avec l'organisation d'une marche pacifique le 15 septembre 2026 sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs points de rassemblement convergeront vers les palais du peuple, siège du Parlement, jour de la rentrée parlementaire. Dans un communiqué signé le 16 juillet, la coalition estime que les renvois au Parlement de la loi portant organisation du référendum pour une nouvelle délibération après les réserves émises par la Cour constitutionnelle ne constitue ni le retrait de cette loi, ni une renonciation formelle au projet de changement de la Constitution. Elle situe cette initiative à 764 jours de l'échéance constitutionnelle des convocations de la prochaine élection présidentielle et 889 jours de la fin du second et dernier mandat de Félix Tshisekedi, dénonçant un risque de balkanisation du pays dans un contexte de guerre et d'occupation d'une partie du territoire national. Les C64 martèlent son opposition à toute tentative de contournement des articles 220 et 70 de la Constitution qui verrouillent respectivement la limitation du nombre des mandats présidentiels et de la durée du mandat. Aucune révision, aucun changement de constitution, aucun référendum, aucun artifice juridique ne peut servir à ouvrir sous quelque forme que ce soit la voie à un troisième mandat de Félix Tshisekedi, affirme la coalition qui appelle les peuples congolais à la vigilance et à la mobilisation pour défendre ce qu'elle qualifie des pactes républicains. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndélo à Bukavu et dans la ville de Baraka, en territoire de Fizi. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre. À présent, la société civile Force Vive du groupement de Moudou s'appelait pour une assistance urgente en faveur des familles victimes de l'incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi 15 août 2026 dans les villages de Timpuidji, sous-village de Nyamira en territoire de Kabare. Dans une interview accordée à Radio Maïndéléo, cette structure appelle les autorités, les organisations humanitaires, les partenaires et les personnes de bonne volonté à venir en aide les sinistrés, notamment en vivres, abris, vêtements, médicaments, couvertures et autres biens de première nécessité. Le président de cette structure citoyenne, François Moubalama, indique que l'incendie s'est déclaré vers 1h du matin et a causé d'importants dégâts matériels et humains. Celui-ci précise que le bilan provisoire fait état de 2 personnes décédées, 3 autres blessées et plus de 100 ménages touchés. Plusieurs maisons ont également été démolies pour empêcher la propagation des flammes, ajoute notre source. François Moubalama appelle ainsi à une intervention rapide en faveur des familles qui ont tout perdu dans ces sinistres.
Un incendie tragique s'est déclaré dans la nuit du 14 au 15 août 2026 dans le groupement de Moudoussa, village de Timpuidji, sous-village de Nyamira. Les bilans provisoires fait état de 100 ménages partis en fumée, 2 personnes ont perdu la vie, 3 personnes ont été blessées et plusieurs maisons parties en fumée. La société civile Force Vive du groupement de Moudoussa exprime sa compassion envers les victimes et présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées. Face à l'ampleur de cette catastrophe, nous lançons un appel les dirigeants, aux autorités, aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de venir en aide aux familles sinistrées qui ont perdu leurs biens et se trouvent dans une situation grave. Nous sollicitons notamment une assistance en vivres, abris, vêtements, médicaments, couvertures et autres biens de première nécessité.
En traitant des personnes se faisant passer pour des humanitaires escroquent la population dans la localité de Luntukulu située dans les groupements de Moulamba, chefferie d'Engweshi en territoire de Walungu. Selon des informations qui nous sont parvenues, ces personnes passent de porte à porte et demandent 30 000 francs congolais par ménage, condition sine qua non pour bénéficier d'une assistance humanitaire. Les personnes à l'origine de cette manœuvre seraient originaires d'Enzibira et Boirungu et elles se présentent comme membres du comité humanitaire des bases envoyées par des organisations comme le Programme Alimentaire Mondial PAM, la Caritas et World Vision. Pour mettre fin à cette forme d'escroquerie, la population de la place est appelée à la vigilance et surtout à ne pas céder aux mensonges de ces personnes. Un acteur social du milieu qui a requis l'anonymat rappelle que les aides des organisations humanitaires ont toujours été gratuites. Il en parle dans cet élément.
na wale watu wanaendelea kupokonya watu pesa na kuwadanganya kama wao watawaletea msaada na kujitia kama wao komite.
Ces gens continuent d'escroquer la population sous prétexte qu'ils vont leur apporter assistance. Ils se font passer pour les membres du comité humanitaire de base. Parmi eux, trois femmes et deux hommes qui disent être envoyés par PAM, Caritas et World Vision. À cet effet, nous demandons à la population d'être vigilante et aux autorités de se charger de cette question.
Et je vous prends au meilleur mot de Kérez. À l'approche de la saison culturelle, à plusieurs agriculteurs des différents villages des territoires de Kabare et Walungu au sud Kivu font face à une pénurie de semences. Ils l'ont fait savoir dans une alerte parvenue à Radio Maindelo le week-end dernier.
Dépendant généralement de l'agriculture de subsistance, les agriculteurs du sud Kivu se trouvent dans l'incertitude quant au démarrage des semis et à la prochaine production agricole. Cette situation est notamment liée aux perturbations climatiques qui modifient progressivement les calendriers des pluies dans la province. Fait savoir Herman Mutabataba, directeur gérant de l'entreprise AgriForce au sud Kivu. Selon lui, ce phénomène est observé depuis près de 10 ans et serait accentué par certaines actions humaines, notamment la déforestation, les pratiques culturelles inappropriées, l'épuisement des sols et la destruction progressive des écosystèmes. Pour Herman Mutabataba, les agriculteurs devraient renforcer la solidarité communautaire en partageant les semences disponibles et en privilégiant la conservation des variétés adaptées aux conditions locales, afin de permettre à un plus grand nombre de producteurs de cultiver durant cette saison. Il les appelle également à ne pas se précipiter pour semer dès les premières pluies, mais à observer la régularité des précipitations afin de limiter les pertes des semences.
Je recommande qu'il y ait quand même une certaine solidarité, parce que dans une contrée, c'est vrai que les gens peuvent ne pas avoir eu beaucoup de récoltes, mais pas tous au même moment et dans la même ampleur. Donc, pour ceux qui ont encore des petits stocks de semences, je pourrais leur demander de voir comment mettre à disposition d'autres de petites quantités qu'ils peuvent s'aimer et retourner avec peut-être un petit intérêt. Par exemple, donner une mesure à quelqu'un et à la récolte, ils peuvent rembourser une mesure et demie. Au lieu toujours d'étendre la main et d'attendre une aide dont on n'est pas vraiment sûr, les agriculteurs ont l'habitude, dès qu'il y a une pluie, deux pluies, ils ont l'habitude de mettre la graine dans le sol. Pour le moment, ce n'est pas vraiment très prudent parce que les pluies peuvent commencer, vous avez un semblant de pluie, vous mettez vos graines dans le sol, et après les pluies disparaissent. Et quand ça disparaît, les plantes sèchent, et puis vous n'avez plus rien.
Herman Mutabataba souhaite enfin voir les organisations humanitaires et les acteurs du secteur agricole s'impliquer davantage dans l'approvisionnement en semences de qualité, la formation des producteurs et la mise en place de petits stocks communautaires capables de faire face aux périodes de pénurie. Ceci permettrait de renforcer la résilience des agriculteurs face à la perturbation climatique, conclut notre source.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal consacré au sport et à la revue des presses, les trafics risquent d'être complètement coupés à l'endroit d'ISUSO 1 sur la route allant de la place de l'Indépendance jusqu'à la gendarmerie communément appelée gendarme au quartier Timpunda dans la commune de Kadutu. L'alerte est du chef de quartier Timpunda, Luc Ilungambiji, dans un entretien avec Radio Maindelo le week-end dernier. Ce cadre de base explique à ces jours, il est difficile pour les véhicules et les motos de traverser cet endroit sans courir le risque de se renverser. Des travaux de cantonnage manuel sont effectués sur place par les habitants dans le cadre des travaux communautaires sans parvenir à résoudre les problèmes, ajoute notre source qui plaide pour des grands travaux pour éliminer définitivement cette faille. Luc Ilunga estime qu'il est urgent d'entamer les grands travaux à cet endroit parce que bientôt la saison pluvieuse va démarrer. Si rien n'est fait avant la tombée des pluies, la communication entre Timpunda et le centre-ville de Bukavu pourrait être coupée, alerte Ilunga Mbiji.
Est en état de délabrement avancé. Nous sommes en train de lancer un SOS pour voir dans quelle mesure nos autorités en place, les gens de bonne volonté, peuvent vraiment nous venir en aide. Nous inquiétons beaucoup plus vis-à-vis de la saison sèche qui doit finir bientôt et la saison pluvieuse va nous surprendre. Une fois la saison pluvieuse en place, en tout cas, il n'y aura plus de véhicules qui pourront monter ou descendre parce qu'actuellement, pendant la saison sèche, imaginez-vous, les véhicules ne savent plus monter là-bas et a fortiori, pendant la saison pluvieuse, qu'est-ce que nous allons observer? Voilà, pour nous, c'est vraiment un SOS. Nous avons toujours mis des latérites avec les compactages et c'est fini, on sauve la route pendant au moins 2 ans, 3 ans. Mais maintenant, ça fait un bout de temps, il n'y a pas un mouvement quelconque qui se réalise là-dessus et c'est pourquoi nous alertons nos autorités. rencontrer, nous alertons les gens de bonne volonté, parce que demain ou après-demain, en tout cas, ça sera un problème très sérieux.
Des propos recueillis par notre confrère Alain Kabika, et merci de nous suivre en direct au terrain annexe du stade des Martyrs à Kinshasa sur le www.radiomandelo.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maëtéléo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
La Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFA, a dévoilé la liste des 8 stades qui accueilleront les rencontres du championnat national Illico Cash League 1 pour la saison 2026-2027. Parmi les infrastructures retenues figure le mythique stade Tata Raphaël de Kinshasa, véritable temple du football congolais qui continuera d'abriter les grandes affiches du championnat. La ville de Lubumbashi sera également fortement représentée avec deux enceintes homologuées, les stades de TP Mazembe et les stades Frédéric Ibassa Maliba. Dans la partie orientale du pays, les villes de Kindu et de Kalemi disposent verront chacune du stade de Joseph Kabila, renforçant ainsi la présence du football de haut niveau dans ces régions. De son côté, Kisangani accueillera les rencontres au stade Patrice Emery Lumumba, tandis que Kolwezi comptera sur le stade Dominique Diour pour recevoir les clubs engagés dans l'élite. La ville de Likasi sera représentée par le stade Père Augustin Kikula, complétant ainsi la liste des infrastructures retenues pour cette nouvelle saison. En revanche, les équipes du Grand Kasaï seront contraintes d'évoluer loin de leur base, faute des stades homologués dans leurs espaces. Les stades de Kachala Bonzola d'Imbujimai se trouvent dans un état de délabrement très avancé, tandis que le stade des jeunes de Kananga est toujours en chantier. Les passionnés du football attendent désormais avec impatience les coups d'envoi de la saison 2026-2027 qui promet des rencontres disputées et une nouvelle occasion pour les clubs de démontrer leur talent sur les pelouses congolaises.
La revue de presse, Radio Mindelo Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous Myriam Moufano, la coupure prolongée du réseau de télécommunications à Fizi et l'accumulation des déchets dans plusieurs avenues de la ville de Bukavu font partie des sujets commentés par la presse le week-end dernier.
Débutant cette revue de presse par la première des ce qui écrit pour l'année scolaire 2026-2027 et l'arrêté provincial signé le 6 août 2026 fixe le frais scolaire dans les établissements publics et privés agréés au Sud-Kivu. Les textes maintiennent la gratuité totale de l'enseignement primaire public interdit aux écoles d'exiger des frais qui ne figurent pas dans les nomenclatures autorisées. Dans les secondaires publics, les frais sont encadrés entre 10 000 et 60 000 francs congolais par trimestre selon les filières et les catégorie d'enseignement. Les mineurs valent et fixés à 1500 francs congolais par an, les bulletins à 1000 francs et les activités sportives et parascolaires à 200 francs congolais. Les frais de fonctionnement doivent être décidés par les organes de gestion de l'école et répartis à raison de 90% pour l'appui aux enseignants et 10% pour le fonctionnement. Ces médias poursuivent, l'arrêt prévoit également des sanctions contre les établissements qui imposeraient les frais illégaux, pouvant aller jusqu'à des mesures disciplinaires, judiciaires ou au retrait de l'agrément pour des écoles privées. Des exemptions sont par ailleurs accordées aux enfants de certains personnels de l'éducation, notamment les enseignants selon les conditions précises. A noter que la gratuité du primaire ne concerne pas les écoles privées agréées où les frais sont fixés par le promoteur en concertation avec les parents. De son côté, kivutimes.com écrit « La coupure prolongée des réseaux de télécommunications et des perturbations d'Internet continue de bouleverser la vie quotidienne dans le territoire des Fizi au Sud-Kivu. Depuis plus de mois et demi, des milliers d'habitants éprouvent des difficultés à communiquer avec leurs proches et accéder à certains services essentiels. Présentés localement comme liés aux mesures sécuritaires, cette situation touche notamment les familles, les étudiants, les commerçants et les personnes vivant loin de leurs proches. Les familles sont particulièrement affectées, certains pouvant rester plusieurs jours sans nouvelles de leurs proches, vivant dans les zones confrontées à l'insécurité. Les étudiants poursuivant leurs études à Bukavu ou virent à Ugoma rencontrent également des difficultés, notamment pour recevoir de l'argent de leurs parents via les services des monnaies électroniques. Sur le plan économique, les petits commerçants sont confrontés au ralentissement de leurs activités, les communications étant essentielles pour contacter les clients et les fournisseurs, organiser les transports de marchandises et effectuer certaines transactions. Face à ces difficultés qui s'étendent désormais à plusieurs aspects de la vie sociale et économique, les habitants de Fizi appellent à des solutions permettant de rétablir les moyens des communications et de réduire les conséquences de cette situation sur le ménage, conclut kivutimes.com. Bouclant ses revues de presse par les souverains libres qui indiquent que l'accumulation constante des déchets transforme plusieurs avenues de la ville de Bukavu en véritable dépotoir à ciel ouvert. Selon un constat effectué par ces médias le vendredi 14 août 2026, des immondices sont visibles notamment sur les avenues paysages 1, 2, E3 et Rambo dans une partie des Mostala, Kassali, Chimpunda, Mongo, Brasserie et dans d'autres coins de la ville. Cette situation termine l'image de la ville, expose davantage la population à l'insalubrité. Alors que certains ménages continuent de s'acquitter de leurs redevances, les sociétés chargées de la collecte semblent éprouver des difficultés à tirer un service régulier efficace. Pour le chef des travaux, Daniel Mouroula, approché par ces médias, cette situation dépasse la seule question de propriété urbaine et constitue un enjeu de santé publique, de protection de l'environnement et de résilience de la ville. Celui-ci appelle les autorités à renforcer les contrôles des prestations et à privilégier une gestion fondée sur la performance. Il recommande notamment des itinéraires de collecte clairs définis, une évaluation régulière des déchets réellement évacués et l'implication d'entreprises disposant de moyens suffisants. Il préconise également de passer progressivement de la simple élimination des déchets à une économie circulaire basée sur les tri, conclut les souverains libres.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Mindeléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Situation toujours tendue dans plusieurs villages des groupements des Iralo et Bouzi, en chefferie des Bouavou, en territoire de Calé, où des combats d'une forte intensité sont signalés après l'offensive des troupes de la FCM-23 sur les positions des FARDC. Plusieurs villages se sont vidés de leurs habitants hier dimanche suite aux violents combats de ces jours. Et toujours dans l'actualité, un peu plus loin des Calais, le groupement des Kanyola en territoire de Walungu a également été théâtre des combats entre les troupes de l'AFC-M23 et les Wazalendo depuis le jeudi dernier. Même si un calme apparent règne dans les milieux depuis samedi dernier, la situation reste volatile alors que le bilan des combats n'est toujours pas connu. Et alors que le dialogue politique annoncé par les chefs de l'État n'est toujours pas convoqué, les opposants réunis au sein de la coalition C64 annoncent les débuts des manifestations le 15 septembre prochain avec une marche pacifique en ligne de mire pour dire non au changement de la Constitution. La mise en onde de TCL d'Anissé à Konkwa à la présentation. Héritier Boroto, excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Mindeléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur le www.radiomindeléo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.